Vous écoutez, on lit pour vous.
Les déchets, un filon pour les PME. Un texte d'Émilie Laperrière, paru le 22 avril 2026 dans La Presse. Au Centre de transfert technologique en écologie industrielle, CTTEI de Sorel-Tracy, on transforme les déchets des entreprises en ressources. La PDG Claude Maheu-Picard explique comment son organisation aide les PME québécoises à verdir leurs procédés et à y trouver leur compte. Dans les friperies du Québec, une partie des vêtements ne trouve jamais preneur. Habits tachés, défraîchis ou trop usés. Des quantités énormes de textiles s'accumulent dans les centres de dons. Jusqu'ici, une bonne partie finissait à l'enfouissement. C'est ce constat qui a mis en branle un projet inattendu au CTTEI. En cherchant comment détourner ces textiles de la poubelle, l'organisation a fait la rencontre de Nature Fibre, un manufacturier spécialisé dans les panneaux isolants à base de chanvre, ouvert à diversifier ses produits. On a fait un plus un, résume Claude Maheu-Picard. D'un côté, une matière première abondante et sans valeur apparente. De l'autre, un industriel prêt à l'exploiter. Avec les partenaires, le CTEI a joué le rôle de catalyseur. Analyser la matière, établir la bonne recette, fabriquer des prototypes, puis évaluer leur performance. Après un an et demi de travail, le projet est maintenant prêt pour la prochaine étape. On essaie de voir comment le commercialiser. Transformer les résidus en ressources. Ce scénario n'a rien d'exceptionnel pour le CTTEI. Depuis plus de 25 ans, le centre accompagne les entreprises dans la valorisation de leurs résidus, que ce soit des textiles, des plastiques, des matières organiques ou des métaux. L'idée de base, ce qui est un déchet pour l'un peut devenir une ressource pour l'autre. Concrètement, l'équipe de 23 spécialistes composée d'ingénieurs, de chimistes, de biologistes, mais aussi de professionnels des sciences sociales, analyse les matières résiduelles, trouve des débouchés et rapproche les acteurs susceptibles de s'associer. On aide les entreprises à être plus compétitives en faisant une meilleure gestion de leurs résidus, explique la PDG. Ce qu'on veut, c'est changer les pratiques, mentionne celle qui est finaliste dans la catégorie Petite OBNL au prix PDG Vert. Dans le secteur de la construction, le CTTEI travaille notamment à développer des bétons bas carbone en remplaçant une partie du ciment par des sous-produits de l'industrie métallurgique québécoise. Les cimenteries figurent parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Réduire leur empreinte, c'est un gain environnemental majeur. On répond aux besoins immédiats des clients et il faut qu'il y ait une rentabilité à court terme pour eux, insiste Claude Maheu-Picard. L'approche de l'organisation repose sur la recherche appliquée, afin de proposer des solutions concrètes aux entreprises, pas des concepts. De marginal à incontournable. Il y a 20 ans, quand Claude Maheu-Picard s'est joint à l'organisation, le discours sur l'écologie industrielle suscitait la méfiance. On se faisait regarder comme des extraterrestres. On me disait qu'écologie et industrie, c'était deux mots qui n'allaient pas ensemble, raconte la dirigeante. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec s'est doté d'une feuille de route en économie circulaire. Des programmes de financement existent. Les fonctionnaires connaissent le vocabulaire. Le CTTEI a contribué à ce changement en accumulant les preuves économiques et en les faisant connaître. Le contexte actuel, avec crise climatique, tensions commerciales et normes européennes plus strictes en toile de fond, accélère encore les choses. Les entreprises cherchent à se réinventer. Et le centre de Sorel-Tracy est là pour les y aider, un résidu à la fois. C'était « Les déchets, un filon pour les PME », un texte d'Émilie Laperrière, paru le 22 avril 2026 dans La Presse.
Comment éviter les cauchemars? Un texte de Catherine Hanfield, paru le 5 avril 2026 dans la presse. Un lecteur, Jean Pellerin, demande « Peut-on faire quelque chose pour éviter les cauchemars? Un aliment, un médicament, un exercice mental ou physique, un massage? » Cauchemar 101. Selon le DSM-5, la Bible de la psychiatrie, le cauchemar est un rêve prolongé dont on se souvient bien, qui provoque un profond sentiment de mal-être. Il aborde des thèmes menaçants, la survie ou la sécurité. Il faut donc le distinguer du mauvais rêve dont on peut se souvenir le lendemain, mais qui ne nous réveille pas, précise le psychiatre Christophe Modori, professeur adjoint à l'Université de Montréal. Lorsque les cauchemars reviennent très souvent et dérangent beaucoup la personne qui les fait, on parle alors d'un trouble, le trouble lié au cauchemar. Fonction. Les rêves remplissent probablement plusieurs fonctions. Ils permettraient notamment de consolider la mémoire et d'entraîner le cerveau à la survie. Le psychiatre Christophe Modori évoque les célèbres travaux du chercheur français Michel Jouvet. Normalement, lorsqu'on rêve, le cerveau paralyse le corps pour nous empêcher de vivre physiquement nos songes. En levant ce frein chez le chat, Jouvet a constaté que le félin mimait des comportements de chasse en plein sommeil. Les rêves serviraient aussi à métaboliser les émotions. Un rêve dérangeant peut donc s'avérer utile, résume Maxime Lukowski, psychologue clinicien du Centre universitaire de santé McGill. C'est le cerveau qui nettoie les expériences de la semaine, résume-t-il. Troubles de stress post-traumatique. Les cauchemars deviennent problématiques lorsqu'ils créent de la détresse, une appréhension au moment du coucher, voire de l'insomnie, note le psychiatre Christophe Modori. Chez certaines personnes, ils peuvent être le signe d'un trouble de stress post-traumatique. Les événements difficiles que les gens ont vécus reviennent dans les cauchemars, résume-t-il, comme si le cerveau essaie de digérer, mais ça ne passe pas, ça revient sans cesse. Les cauchemars deviennent en quelque sorte la continuité du trouble, vécu le jour et la nuit, indique le psychologue Maxime Lukowski, qui a déjà travaillé auprès de réfugiés. Problèmes de santé. Les mauvais rêves récurrents peuvent aussi trahir la présence d'autres troubles du sommeil, comme la narcolepsie ou l'apnée du sommeil. Ils peuvent aussi être liés à différents problèmes de santé, à la prise d'un médicament ou d'un supplément, dont la mélatonine, ou encore au sevrage du cannabis, indique le docteur Modori. Lorsqu'on agit ses rêves, comme les chats dans l'expérience, ça peut être un signe précurseur de certaines maladies neurologiques. C'est donc important d'en parler à son médecin, indique le psychiatre. Ensuite, nous, on travaille sur ce qui reste, ajoute le psychologue Maxime Lukowski. Thérapie. Le traitement de référence contre les cauchemars chroniques est la thérapie par répétition d'imagerie mentale. Une fois par semaine, on rédige le scénario d'un rêve agréable. Il peut s'agir d'un rêve totalement imaginé ou de la version réinventée d'un cauchemar récurrent transformé de manière positive. Chaque jour de la semaine, pour une période de 10 à 15 minutes, on visualise ce beau rêve en y ajoutant des détails comme des odeurs ou des sensations. Ça permet de diminuer la fréquence des cauchemars, indique le docteur Modori. Après avoir fait un cauchemar, on peut aussi l'écrire sur un bout de papier, qu'on détruit ensuite symboliquement. Mais pas plus qu'une fois par semaine. On ne veut pas passer tout notre temps à ressasser les cauchemars non plus, indique le psychiatre. Méditation, relaxation. Pratiquer la méditation de pleine conscience pendant la journée pourrait aussi être un allié des beaux rêves, selon Maxime Lukowski. Cela augmente les chances d'avoir des rêves lucides lorsqu'on prend conscience qu'on rêve et qu'on peut influencer le scénario de nos rêves. À l'opposé, ruminer avant de dormir peut contribuer au cauchemar, indique par courriel Michelle Carr, chercheuse en sommeil à l'Université de Montréal. Pour les prévenir, on peut donc pratiquer la relaxation physique et mentale avant d'aller au lit, dit-elle, en relaxant ses muscles et en respirant calmement et profondément. Enfin, certaines personnes rapportent que manger tard le soir contribue aussi à l'apparition de cauchemars. Médication. Pour les personnes chez qui les cauchemars ont un impact majeur, les médecins peuvent prescrire un médicament, la prazosine. Ce médicament baisse la pression artérielle, mais aussi cette suractivation du système nerveux pendant le sommeil. Ça diminue la réponse de combat ou de fuite, résume le docteur Christophe Modori. Mais pour éviter de prendre de la médication à long terme, la thérapie est vraiment centrale, conclut le psychiatre, qui rappelle ceci. Les cauchemars sont un bon thermostat de notre état intérieur et il est toujours sage d'écouter ces signaux que le cerveau envoie. C'était « Comment éviter les cauchemars », un texte de Catherine Hanfield, paru le 5 avril 2026 dans la presse.
Le boccia pour mieux vivre avec la maladie. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 28 avril 2026 dans la presse. Le défi sportif Alter Go, cet événement international annuel de sport adapté réunissant des centaines d'athlètes de dizaines de pays, s'est déroulé en avril à Montréal. Dans ce groupe de gens inspirants se trouve Alison Levine, une Montréalaise qui, grâce au sport, a réalisé qu'elle aussi avait un avenir. Alison Levine a d'abord perdu l'usage de ses jambes à l'adolescence. Son tronc a ensuite été affecté, puis ses bras. Année après année, depuis près de 15 ans, le sport l'aide à affronter les défis psychologiques qui ont accompagné son diagnostic de maladie dégénérative neuromusculaire. Et à 35 ans, après 3 participations aux Jeux paralympiques, elle fait toujours partie de la crème des joueuses de boccia, B-O-C-C-I-A. Alison Levine avait 12 ans quand elle a commencé à ressentir une faiblesse au pied droit. Elle perdait l'équilibre et était incapable de bouger son gros orteil. Tranquillement, ça a dégénéré. Ça a commencé dans l'autre pied, l'autre jambe, raconte-t-elle dans un entretien avec la presse. Évidemment, elle a passé des tests médicaux. Son médecin de l'époque était cependant convaincu que le problème était psychologique, dans sa tête. Il disait que si j'avais vraiment besoin de marcher, j'allais marcher. Alors ils ont enlevé mes béquilles, m'ont forcé à marcher. Mais clairement, je n'ai pas marché. À l'adolescence, donc, Levine se déplaçait avec des béquilles et des orthèses pour les jambes. À l'âge de 20 ans, alors que sa condition commençait à l'affecter beaucoup plus, elle a consulté de nouveaux médecins. Ceux-là ont enfin mis le doigt sur le problème. Elle était atteinte d'une maladie dégénérative neuromusculaire provoquant une faiblesse et des spasmes dans ses muscles. « Il y a un futur pour moi. » Petit à petit, Alison Levine perdait le contrôle non seulement de ses membres, mais aussi de sa vie et de son corps. C'est pour ça, raconte-t-elle, qu'elle a commencé les sports adaptés. Levine a d'abord pratiqué l'équitation, mais la faiblesse qui s'est installée dans son tronc l'a forcée à se retirer. La jeune femme avait cependant eu le temps de comprendre une chose bien importante. Le sport lui donnait une identité, et elle ressentait désormais le goût de compétitionner. Elle s'est donc tournée vers un autre sport, le basketball en fauteuil roulant. « C'était ma première initiation à un sport adapté, » dit-elle. Pas juste ça, c'était ma première introduction à la vie du monde qui vit avec des handicaps. Je ne savais pas que les personnes qui vivent avec des handicaps peuvent avoir des vies normales et autonomes. Le basketball en fauteuil roulant lui a permis de découvrir toute une communauté de gens qui, comme elle, vivent avec une limitation. C'est là que j'ai commencé à sentir qu'il y avait un avenir pour moi et que, peu importe ce qui arrive, ça va être correct. Un talent immédiat. Chaque fois que sa maladie progressait, Alison Levine devait changer de sport. Elle est passée du basketball au rugby en fauteuil roulant, un sport qu'elle a adoré. C'est par la suite qu'elle a découvert, par pur hasard, le boccia. Elle se souvient d'ailleurs de la date précise, le 8 décembre 2012. Cette journée-là, Alison Levine était bénévole pour un tournoi de rugby en fauteuil roulant. À une extrémité du gymnase, elle a remarqué un homme venu présenter le boccia, un sport adapté de précision et de stratégie destiné aux gens avec un handicap moteur sévère. En fin de journée, alors que l'homme s'apprêtait à partir, Levine a timidement demandé à lancer les balles. Elle ignorait que l'homme en question était en fait Marco Di Spaltro, membre de l'équipe nationale canadienne. Je pense qu'avec la manière dont j'ai lancé, il a réalisé qu'il y avait peut-être une possibilité. Tout de suite, son attitude a changé. Il m'a demandé quel était mon handicap. Le moment où j'ai dit que j'avais une maladie dégénérative, il était tellement content. C'est drôle à dire. Levine a rejoint l'équipe du Québec en 2013, puis l'équipe canadienne en 2014. Au fil des années, elle s'est imposée comme une des meilleures au monde. Elle a d'ailleurs déjà occupé le premier rang mondial dans sa catégorie, en BC4, limitation fonctionnelle sévère sans paralysie cérébrale. Elle a pris part aux Jeux paralympiques à 3 reprises. Elle vise d'ailleurs une première médaille à Los Angeles en 2028. Aujourd'hui, la Montréalaise est une vétérane du boccia. Comme elle continue à perdre de l'autonomie, elle doit continuellement s'adapter, mais elle se dit encore capable de lancer. Le sport, dit-elle, est ce qui l'aide dans l'aspect psychologique d'avoir une maladie dégénérative. Je suis convaincue que si je ne jouais pas au boccia, j'aurais dégénéré beaucoup plus vite, laisse-t-elle tomber. C'était Le boccia pour mieux vivre avec la maladie, un texte de Catherine Harvey-Pinard paru le 28 avril 2026 dans La Presse.
Le Pinot noir actuel est génétiquement identique à celui du Moyen Âge. Un texte de Pauline Gravel publié le 24 mars 2026 dans Le Devoir. Le Pinot noir, ce célèbre cépage de la Bourgogne, dont on tire des vins rouges prestigieux tels que le Romané Conti, est identique à celui qui était cultivé au Moyen Âge. François Ier et Catherine de Médicis ont donc bu du vin issu de raisins identiques à ceux qui sont utilisés pour faire les pinots noirs que nous buvons aujourd'hui. C'est ce que révèle notamment une grande étude d'archéogénomique des vignes de France, publiée dans Nature Communication, qui met en lumière l'origine des vignes et l'évolution des pratiques de viticulture de ce pays réputé pour ses bons vins. Cette vaste étude consistait à séquencer le génome de pépins de raisins exhumés de sites archéologiques de l'âge de fer, de l'époque de la Gaule romaine et de la période médiévale aux quatre coins de la France. La cinquantaine de pépins étudiés couvrait près de 4300 ans d'histoire de la vigne en France. Les plus anciens pépins analysés, notamment ceux trouvés à Nîmes, qui date de l'âge du bronze, soit de 2300 à 2000 ans avant notre ère, et ceux exhumés à Latte, au sud de Montpellier, qui remontent à l'âge du fer, soit de moins 500 à moins 475 avant Jésus-Christ, étaient le résultat d'un croisement de vignes sauvages Vitis sylvestris, dont la variété dominante, Sil est aussi la lignée sauvage la plus abondante aujourd'hui en France. Les chercheurs ont par ailleurs découvert les caractéristiques génétiques de variétés modernes domestiquées dans des pépins prélevés sur des sites remontant à l'âge du fer dans le sud de la France, notamment à Marseille, pépins datant de 600 à 400 avant notre ère, à Martigues, de moins 300 à moins 200 et à Latte de moins 575 à moins 25. Début de la viticulture. L'apparition de ces variétés domestiques marque ainsi le début de la viticulture en France, souligne en entrevue l'auteur principal de cette étude, Ludovic Orlando, directeur du Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse. Citation. Autrement dit, les humains ont, à ce moment-là, à cet endroit-là du monde, mis en place la culture de la vigne. Mais ça ne veut pas dire que la viticulture est apparue pour la première fois dans le monde à ce moment-là. La culture de la vigne est apparue dans notre jeu de données, en France, pour la première fois il y a 2600 ans avant aujourd'hui, Mais comme nous avions moins d'échantillons datant de l'âge du bronze qui précède 600 ans avant Jésus-Christ, on ne peut pas garantir que si on en avait séquencé plus, on n'aurait pas trouvé quelque chose un peu plus tôt. C'est pourquoi on qualifie cette date d'ante quem, Q-U-E-M, date à partir de laquelle il n'est plus possible d'en douter. Cela dit, 600 ans avant notre ère, c'est ce que les archéologues ont toujours écrit pour la France, ellipse, et qui correspond au moment où les Grecs fondent la cité de Marseille, fin de l'ellipse, précise le chercheur. Citation, « La domestication, soit l'acte de transformer le sauvage en quelque chose que l'on cultive pour la première fois, est apparue bien avant », précise-t-il, fin de citation. Selon une étude parue dans Science en 2023, la vigne sauvage aurait été domestiquée simultanément, mais indépendamment, dans le Caucase et dans le Croissant fertile, cette bande de terre du Proche et du Moyen-Orient qui borde la Méditerranée, il y a 11 500 ans. Croisement de l'âge du fer. Les données génétiques recueillies par les chercheurs indiquent aussi que les diverses variétés domestiques qui sont présentes en France dès l'âge de fer possèdent, citation, des liens génétiques avec des variétés du Levant, Proche-Orient, de l'Asie du Sud-Ouest, des Balkans et de la péninsule ibérique, et résultent vraisemblablement d'échanges multiples sur de longues distances, fin de citation, spécifient les auteurs de l'article. Mais les vignes cultivées durant l'âge de fer dans le sud de la France ne se composaient pas strictement de variétés domestiques. Elles étaient souvent issues de croisements avec des vignes sauvages locales, voire du Levant. Citation, on voit que les cultivateurs ont mélangé des vignes. Ont-ils fait ces croisements de manière volontaire dans le but de développer de nouvelles variétés mieux adaptées aux conditions environnementales locales? On ne peut pas le dire avec nos données, affirme M. Orlando, fin de citation. Pendant la domination romaine, de tels croisements ont eu lieu autant dans la partie nord de la France, Troyes, Orbourg, Wyr, que dans le sud, Nîmes, Valros, Antibes, et avec des vignes sauvages du Levant et du Caucase, voire des lignées communément utilisées aujourd'hui comme cultivars. Parenthèse, variété cultivée, fin de parenthèse, au Caucase. Citation, ces observations indiquent que des contacts de longue distance se sont poursuivis durant la période romaine et ont apporté des graines et des boutures en France, soit directement du Levant et du Caucase, soit indirectement par la Grèce ou l'Italie. Ces introductions ont visiblement été intégrées avec succès dans le système de viticulture locale et ont contribué à la diversité génétique des vignes cultivées dans la Gaule romaine, décrivent les auteurs, fin de citation. L'importance des boutures. Les chercheurs ont également pu déterminer le moment où l'on a commencé à avoir recours à la reproduction végétative par bouturage, parenthèse à partir d'une feuille, fin de parenthèse, ou par marcottage, parenthèse, par enracinement d'une tige, fin de parenthèse. Cette technique de reproduction qui produit des clones, soit des vignes génétiquement identiques à la plante mère, aurait été utilisée dès l'âge de fer, comme en témoigne l'adéquation génomique entre des pépins datant de moins 625 à moins 500 trouvés à Saint-Maxime et des pépins datant de 500 à 400 avant notre ère exhumés à Marseille, situés à environ 40 km. Autre exemple encore plus patent de l'usage de la propagation végétative durant l'époque romaine, un pépin datant des 50 premières années de notre ère, trouvé à Orbourg-Wyr, dans le nord-est de la France, s'avère génétiquement identique à deux pépins mis au jour dans le sud de la France, plus précisément à Mauguio, 0-200, et à Valros, 100-200. situés respectivement à 560 et à 610 km de Orbourg-Weir. De plus, des copies conformes de Pépin provenant de Limoges et liées à l'époque romaine, 170 à 240, ont été découvertes sur le site médiéval de Valenciennes, 1100 à 1200. L'existence de clones séparés chronologiquement par un millénaire et géographiquement par 530 km confirme que la reproduction végétative était devenue une technique répandue dans la culture de la vigne en France durant les périodes romaines et médiévales. Photo Sébastien Bozon, Agence France-Presse, détail d'une grappe de pinot noir destinée à la production de créments au vignoble du domaine Mollinger à Wettolsheim, dans l'est de la France, en août 2025. Citation: de toute évidence, cette technique était aussi un moyen de perpétuer des variétés de vignes qui s'avéraient précieuses en raison de leurs propriétés intéressantes et de se les échanger, note Ludovic Orlando. Fin de citation. Les chercheurs ont également remarqué que le génome de Pépin datant de 1027 à 1160, extrait du site médiéval d'Ibiza, I-B-I-Z-A en Espagne, concordait exactement avec celui du cultivar Folha, F-O-L-H-A, de Figueira, une variété de raisin blanc qui pousse aujourd'hui au Portugal. De plus, un échantillon prélevé à Valenciennes et remontant entre 1400 à 1500 s'est avéré identique à la très renommée variété de raisin rouge Pinot Noir, qui est aujourd'hui l'une des plus prisées par l'industrie du vin, car elle est à l'origine des bouteilles les plus prestigieuses du monde. Citation: le Pinot Noir était déjà bien établi au 15e siècle. Et la version de cette époque est génétiquement la même que celle d'aujourd'hui. Le Pinot Noir est aussi connu pour avoir influencé beaucoup de cépages, c'est-à-dire que beaucoup d'autres types de vignes ont comme ancêtre le Pinot Noir. Ellipse, ils y sont apparentés au premier ou au second degré, fin de l'ellipse. Autrement dit, ces vignes ont été mélangées avec le Pinot Noir à un moment donné. Explique M. Orlando, fin de citation. C'était « Le Pinot Noir actuel est génétiquement identique à celui du Moyen Âge », un texte de Pauline Gravel publié le 24 mars 2026 dans Le Devoir.